pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 198. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture et on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'un peu de tout. Hello Benji, comment ça va?
Bah écoute, ça va. C'est un peu notre cheval de bataille depuis plusieurs épisodes. On parle d'un peu de tout maintenant, hein, depuis qu'on a décidé que...
Notre cheval de Troie de bataille.
Oh là là, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Attention, tu sais quoi? Il y a un truc que j'apprécie en ce moment, c'est tous les gens... Enfin, en ce moment, Odyssée est déjà sorti il y a un mois, je crois.
Ouais.
C'est que tous les gens qui sont devenus tout d'un coup experts en Homer.
Ah ouais.
Les experts
en Grèce antique, ouais.
Les experts, et tu sais, c'est les mecs qui arrivent pour dire en disant dans l'Odyssée c'était pas mal mais il manquait Tom Bombadil quoi, tu vois, et c'était pas la même. Comment tu vas, Benji?
Bah écoute, ça va pas trop mal, il fait très chaud depuis quelques jours chez moi, et je sais que vous en France, au moment où on enregistre en ce moment, c'est à peu près supportable, mais qu'a priori ça va peut-être pas très tarder à redevenir horrible. Donc je souhaite beaucoup de courage à tous les gens en Europe qui souffrent de la chaleur, parce que mine de rien c'est quand même pas évident. Ici, moi, j'ai de la chance, on a essayé de tenir le plus longtemps sans allumer la clim, mais il y a un moment où il a fallu qu'on le fasse. Mais voilà, bon courage à tous ceux qui souffrent de la chaleur en Europe, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué.
Et j'en ai parlé parce qu'on a enregistré Summessen hier justement, mm-hmm. Et j'ai commencé en me disant on a une pensée pour tous les gens qui habitent dans le sud-ouest de la France.
Ah bah oui, avec les incendies, ouais.
Avec les incendies et tout, et tu sais quoi, vous avez eu votre lot d'incendies à Los Angeles?
Ah bah, il y a eu un incendie à Burbank pas plus tard qu'hier, figure-toi.
T'as eu chaud ?
Dans les montagnes.
Ah non,
dans les montagnes. Pas près de chez moi, non, mais dans les montagnes. Bah tu sais, les montagnes qui étaient en feu quand tu étais venu pour mon mariage. Ben,
c'est
dans
vrai.
Ces mêmes montagnes-là, il y avait un incendie hier.
C'est vrai, j'ai jamais vu des incendies aussi près. Mm. Et en même temps, les gens qui étaient tranquilles, quoi. Je me souviens d'un mec qui était sur le perron pas loin de... Je crois que c'était de ton voisin de Paillé, enfin de à côté de chez toi. Et le mec, il était en train de boire une bière et regardait ça. Et il y avait un côté très Disaster Girl, genre je regarde le monde qui est en train de brûler.
Brûler, ouais.
En buffant une bière. Moi, jamais j'aurais bu une bière, puisque je n'aime pas la bière, comme tu sais. Mais
oui, c'est la seule raison, parce que sinon, bon.
Mais on a tapé la discute en disant, genre, à quel moment était le bon moment opportun, et il n'y a jamais eu de...
Non, mais c'est pas grave, explique ce qui se passe.
Attends, excuse-moi, désolé. Tu disais quoi?
Je disais, c'est pas grave, explique pourquoi il y a du bruit derrière, parce que là, on l'entend, là.
Ah, on l'entend vraiment beaucoup?
Ah, on l'entend vraiment, ouais.
En tout cas,
moi, je l'entends beaucoup dans mes oreilles, alors je sais pas s'il y a l'enregistrement.
J'ai un petit toutou.
Ouais.
Et j'ai un petit toutou à la maison. C'est un chien qui vient faire son stage.
D'accord.
En fait, là, on arrive dans ce moment de l'été où mon fils va partir une semaine et je vais être tout seul à la maison. T'entends les petites patounes?
Ah, j'entends, ouais.
Ah, c'est trop mignon. Honnêtement, c'est ce qui m'a, ça m'a porté énormément de bonheur.
C'est très bien.
Et du coup, c'est un chien que je reçois en stage.
Ouais.
Je lui ai dit, il me dit. Alors, je peux le dire, c'est un auditeur. Et je l'embrasse très fort.
Ouais,
et,
le chien est un auditeur. Très bien.
Non, son maître est un auditeur. Et il m'a fait, ouais, à un moment, il faut que j'aille. Là, je pars longtemps et il faut que j'aille. Faut que j'aille le déposer en Allemagne, à la belle famille. J'ai dit, ne cherche pas plus loin. ne cherche pas plus loin. Je suis un dog sitter, je le fais. Il m'a dit, mais c'est un service, genre ça se paye. J'ai dit, non, moi je fais à l'œil. Chez moi, c'est genre, il sera traité comme mon égal. Et comme tu entends, il n'aboie pas. Il est tout.
Alors décris-le un peu. C'est quelle marque?
C'est un corgi.
Oh, en plus, bah oui. Voilà.
Donc un gros cucu, et c'est vraiment good dog. Et alors il y a un truc que j'adore particulièrement.
Une bonne tête, il tire la langue, il a des grandes oreilles.
Il vient sur le canapé. Quand je suis dessus ou quand Amandine est dessus.
Mm-hmm.
Et en fait il nous regarde avec des yeux. Attends, parce que je me tourne la tête pour essayer de le voir.
Bah oui, parce que tu parles loin du micro, donc
excuse-moi,
je me dis c'est parce que tu dois regarder le chien.
Ouais, et du coup en fait il me regarde avec des yeux hébétés comme ça, et un petit peu, mais en même temps dans sa tête je pense qu'il se dit je vais les impressionner. Et il saute sur le canapé. Faut resituer le canapé, il est à 25 cm du sol, c'est genre. C'est vraiment genre, il est au bout de. Et tu sens qu'il se concentrait pour le faire, hein, genre.
Oui, c'est pas un chat, quoi. C'est...
Ah non, c'est pas un chat du tout. Et alors, c'est les. Moi, tu sais, moi, je pensais que j'allais faire des grosses balades. Allez, on va aller au parc Montsouris ou je sais pas, des trucs de ouf.
Ouais.
Et en fait, non.
Il fatigue trop vite.
Non, il fait 20 mètres. Il fait 20 mètres, je te jure. Alors. Écoute, c'est quoi? J'ai repéré les commerces que j'aime pas. Je lui dis, tu vas faire pipi jusque là et puis après tu reviens. Mais mais par contre, ouais, il parfois il m'est arrivé la dernière fois qu'il était là, il voulait pas sortir, il s'est posé devant moi, il me regardait et il a fallu qu'on entame un dialogue de 5 minutes en russe, évidemment, parce que je l'ai dit en russe et j'ai bien expliqué à mon fils que ce chien ne parle mieux russe que français, donc il faut lui parler en russe. Et donc je lui explique pendant 5 minutes des bienfaits de se balader quand même un petit peu et pas juste être une couch potato comme on dit chez toi.
Tout à fait.
Et voilà, il m'apporte énormément de bonheur et je vais l'avoir une semaine avec moi. Ça va être super. Il va regarder mes séries, il va regarder Robot Tyson parce que je vais jouer à Robot Tyson. Tu sais, c'est la semaine. Normalement, c'est une semaine régressive. Tous les papas qui ont l'occasion de faire ça connaissent ça. Le moment où ils sont tout seuls pendant 3 jours.
Ouais.
Et tu sais, c'est ce que j'appelle les journées chocapic, quoi.
Ouais.
Genre, tu te casses pas le cul. Tu fais que des trucs simples. Tu bosses, mais tu fais le minimum. C'est très, très agréable. Voilà, c'est très agréable. Mais je suis encore plus content quand il revient. Mon fils, hein, papa, le chien, évidemment, je suis content.
Le chien aussi, hein. Le chien aussi. Quand même.
En tout cas, pour l'instant, ils sont tous les deux là. Et quand il m'a vu dans la rue, il a couru vers moi, genre, ah, oh, c'est lui, mon deuxième maître. Il est trop choupi.
C'est agréable, hein. Ouais.
Ouais. Franchement, honnêtement, je suis complètement un dog guy. Vraiment, genre, c'est un truc qui. Parce que j'ai pas la vie qu'il faudrait. Genre, il faudrait que j'ai une maison pour un chien ou genre. Faudrait que je parte jamais en haut. Jamais. Tu vois, et c'est compliqué, hein, tu vois. Et là.
Écoute, voilà. J'ai deux chats. Je connais un petit peu le problème, même si les chats sont un peu plus indépendants, donc c'est un peu moins un souci. Mais ouais, ouais. Je sais très bien de quoi tu parles.
Ouais, ouais,
mais
ouais.
De la même manière, hein, moi, il n'y a rien qui me donne plus de plaisir que quand mes chats jouent à rapporter un jouet que je jette et qui court après et qui me le rapporte. Tu vois, comme un chien le ferait. Ça me donne tellement de plaisir quand ils le font, c'est formidable.
Ouais, il y a deux choses comme ça qui me font plaisir, c'est ça et de me dire que et je sais pas en fait parce qu'on enregistre à ce moment-là de l'année, je crois que Sarkozy a encore son bracelet électronique et ça.
Tu sais, je suis quand même déçu qu'il ne soit plus en prison, hein. Faut quand même le dire.
Ah mais toi t'as loupé parce que toi tu n'es ni sur Twitter ni tu vas dans les kiosques. Les kiosques achètent Bolloré, mais.
Ben non, puisque je n'en ai pas ici.
Mais oui, mais parce que la couverture de Paris Match, c'est Carla Bruni et son toutou Sarkozy en vacances. Et il y a une photo incroyable où il rentre le beat comme t'as jamais rentré le beat dans ta life. et genre, tu sens que retiens ta respi. Et tu sens qu'il a travaillé ça. C'est travaillé parce que la photo, elle est incroyable. Il faut que tu la vois. Tu sais quoi, je te l'enverrai après, mais j'ai peur que tu fasses des cauchemars après.
Mais on est d'accord que les vacances du couple Sarkozy, tous les ans, ils ont la une dans le match. Hein. C'est une habitude, en fait.
Ah bah oui, non mais c'est un...
Ils n'ont pas besoin de se faire chier à prendre des photos de vacances. Ils ont des magazines qui le font pour eux, en fait.
Bah oui, c'est un mac de com. En sachant qu'il n'appartient plus à Bolloré, mais il appartient maintenant à Bernard Arnault depuis un an, je ne sais pas.
Oui, bon, après, ça reste un ami de la famille, quoi.
Tu sais quoi, c'est un échange de bons procédés, quoi. C'est,
oui, voilà,
c'est un titre de presse qu'on s'échange. Comme
tu sais que, vu qu'on parle de Sarkozy, moi, j'ai à peu près un an de délai sur mes podcasts. Encore que j'ai repris un peu d'avance, là, je suis à octobre 2025. Et j'en suis à l'époque où Sarkozy va en tôle et où tout le monde est euphorique.
Mmh.
C'est vraiment ce moment de communion dans tous les podcasts que j'écoute où tout le monde est super content que Sarkozy parte en prison. Si on avait su qu'il y resterait 2 semaines et qu'ensuite il nous écrirait un bouquin dessus, c'est...
On n'a jamais été aussi heureux que depuis Manuel Valls qui se mange à Barcelone.
c'est vrai que c'était bien aussi.
C'est un truc qui nous unit tous en tant que Français.
Mais il y avait vraiment ce moment de plaisir de Sarkozy qui part en prison et malheureusement ce moment de plaisir qui nous a été enlevé parce qu'il en est sorti beaucoup trop vite.
Je suis désolé, hein, si t'écoutes tes podcasts avec un an de retard, tu vas voir, les infos vont pas être ouf, hein, au bout d'un moment.
Ouais, bah, je suis au courant des infos un peu quand même, mais tu vois, c'est, Ça, j'entends ces gens si contents et je me dis, d'un côté, ça me fait plaisir, mais de l'autre, j'ai l'impression d'entendre les gens au début de l'année 2020 où ils se disent, ouais, cette année, c'est bon, c'est notre année, ça va être bien. Tu vois, et tu dis, si vous saviez, si vous saviez.
Puisqu'on parle de Sarkozy, autant parler de son plus grand soutien.
Ouais, Stéphane Boulet.
Stéphane Boulet, putain, bravo. Putain. Stéphane Boulet, il faut que je raconte quelque chose et alors, combien de gens écoutent et After Eight et Super Ciné Battle? Mais il faut que je fasse l'annonce.
Pas Stéphane, déjà.
Déjà pas Stéphane, donc on peut tout dire.
On peut y aller.
Il ne nous écoutera pas. En fait, Stéphane Boulet va être officiellement repressé par une IA.
Et... qui dira peut-être moins de conneries, du coup. Hein. Bah c'est peut-être qu'on n'y perd pas au change.
Non, mais tu sais quoi, j'aimerais bien refaire sa voix qui dise « Speed Racer, c'est vraiment le film de siècle !» Tu vois, un truc comme ça. Alors, pourquoi je parle de Stéphane Boulet? Pourquoi on parle de Stéphane maintenant, là? C'est que, en fait, je suis victime d'une rupture sentimentale podcastique. Stéphane est dans l'obligation d'arrêter Super Ciné Battle pour l'instant. Alors il y a tout un truc sur le hiatus pour l'instant.
Ouais.
Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il a pris trop de responsabilités dans l'éducation nationale. Littéralement, c'est l'éducation nationale qui a eu la peau de Super Ciné Battle.
Mais pas que Super Ciné Battle, en fait, de tous les podcasts auxquels il participait, globalement.
Oui.
Parce que, rien. Peut... Voilà, c'est de sa faute si le gros cast, il n'y aura pas d'épisode.
Ouais, ben, alors, trouve-toi un nouveau Stéphane Boulet et on en reparle. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, Stéphane peut plus, il y a un devoir de neutralité absolue. Il peut plus prendre la parole, il peut plus sans doute écrire comme avant, il peut à la rigueur mettre son avis sur Blue Sky, sur ses avis de films, et c'est à peu près tout. Mais il a un devoir de réserve absolue à cause de ses nouvelles fonctions. Alors pourquoi je dis temporaire? Parce que au train où va sa carrière, je pense que d'ici 2 ans, il va être ministre de l'Éducation. On en rigolait. Voilà. On en rigolait au début de ce podcast, mais il est pas improbable.
Mais là, c'est fulgurant sur le fulgurant, ça, sa carrière. C'est incroyable.
Non, mais d'abord, moi, ça me fait me questionner sur l'éducation nationale.
Sur le fait que ce mec-là monte les échelons aussi vite. Mais oui.
Je devrais pas dire ça parce que mon fils a brillamment réussi des examens, et bon, peu importe, mais en tout cas, bon, j'ai confiance dans l'éducation nationale de mon pays.
ça veut dire que t'es coupable, on le rappelle.
Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, non, mais pourquoi c'est temporaire? C'est parce que peut-être que c'est possible aussi, vu la rapidité et son évolution, que son poste change et qu'il soit appelé à d'autres fonctions. À d'autres fonctions, j'allais pas dire subalternes, mais en tout cas pas exposées, ou qui ne lui demandent pas ce genre de devoir de réserve. Et je lui ai dit, le podcast n'est pas terminé, on y reviendra. Alors, est-ce qu'on reviendra en 2028? Est-ce qu'on y reviendra en 2029? Est-ce qu'on y reviendra en 2030 pour une nouvelle décennie?
En décembre 2029 pour pouvoir attaquer la nouvelle décennie?
Non, mais la porte est complètement ouverte pour ici. Mais évidemment, il ne peut pas faire le classement dans le marbre. Il ne peut même pas participer, en fait, faire un dernier au revoir parce que c'est vraiment une condition assez importante de sa fonction.
Ouais.
Je pense que j'ai été suffisamment clair sans utiliser de langue de bois. Et je pense qu'il faut arrêter la langue de bois. Et sachez que j'ai confiance en la justice de mon pays. Non, mais voilà, je suis triste parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Et c'est un truc qu'on adore faire. On s'est dit, on va continuer à marcher, à parler ciné. On n'est pas loin en téléphone. Hein, il est toujours joignable. On se parle régulièrement, nous tous. Mais en tout cas, en termes de podcast, là, on est sur un hiatus, et à mon avis, ça durera ce que ça durera. Voilà.
Ouais.
On peut jurer de rien, mais moi, je dis, soyez patient, et la patience payera. Faut que je dise autre chose, c'est que j'ai pensé à une personne, en tout cas, qui pourrait au moins fill in pour parler des blockbusters cet été. Il a cette personne a déjà tout vu.
Ouais.
Donc elle
c'est ouf qu'il soit déjà à jour. Ouais.
Cette personne est déjà à jour. On en reparlera après. Tu sais quoi, on va laisser les gens divaguer. Ils vont se dire, oh là là, putain, mais ils vont demander à Christopher Nolan de faire les blockbusters de l'été. Non, mais on a une personne en tête. Et surtout aussi, une autre chose, c'est que je sais que ça va me manquer aussi de faire un podcast ciné. Je sais que ça va me manquer. En plus, c'est un podcast ciné qui parle de trucs rétro, qui parle d'actu, mais qui parle aussi de trucs rétro. Et le classement, c'était le meilleur angle possible pour parler de tout ce qu'on voulait, de tout.
Ouais, ouais.
Mais du coup, comme je lui ai dit, je l'ai appelé le lendemain, je lui ai dit, écoute, je suis orphelin de podcast, je te préviens, je vais en faire. Il dit, ouais, pas de problème. Donc,
tu veux dire qui est cette personne ou tu gardes ça secret pour l'instant?
Non, je garde le secret. Après, les gens qui me connaissent vraiment peuvent lire en moi comme un livre ouvert ou comme un manga à l'envers. Mais en tout cas, oui, non, j'ai un. Mais
tu as des idées, voilà, on peut le dire.
J'ai des idées. Je trouve que After Eight et Super Cine Battle c'est des super titres. Mais vraiment, je trouve que j'adore ces titres. Genre, j'adore les podcasts en tout, mais je trouve que les titres, on s'était mis d'accord sur quelque chose de vraiment super.
Ouais.
Et j'aimerais trouver quelque chose d'aussi intéressant. Et je veux pas que ça soit juste. Je veux pas que ça soit juste un podcast ciné de plus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis, je remercie toujours les gens qui ont suivi Super Ciné Battle jusque-là. Mais je voudrais idéalement que ce soit le genre de podcast ciné que Stéphane écoute. Non, c'est impossible.
Moi, tu connais mon avis, tu sais, je t'ai même donné une idée de titre.
Oui, tu m'as donné une idée de titre.
Auquel je tiens beaucoup, mais voilà, si tu vas avec autre chose, écoute, je n'en...
Et tu sais quoi, Amandine est d'accord avec ton titre. Amandine est d'accord avec ton titre. Moi, je sais pas si... Ouais, écoute, mais j'ai réfléchi.
Écoute, si tu prends un autre titre, je ne t'en voudrais pas, mais je serais quand même un petit peu déçu parce que celui-là, je le trouve qu'il est bien.
C'est quoi ? Je laisserai mon fils choisir et on risque de s'appeler Number Blocks, le podcast, et on va parler que de mathématiques.
Un podcast de maths avec Vadim.
Ah, mais puisque on était à la piscine à un moment, il y a des gens qui comptaient et tout, et genre ils font genre 7 fois 9. Et mon fils, il fait facile. Et là, je rigole et je dis, non, les mecs, c'était des jeunes garçons, genre, ils avaient 12 ans, quelque chose. J'ai dit, non, faut lui dire 47 fois 9. Et mon fils, il fait, tu sais, de tout de goût. Et les mecs, ils font, oh, mais c'est pas possible. Tu sais, genre, il commençait à lui donner des calculs. Je fais tous les jours, et ça, c'est ma vie. Tous les jours, il calcule des trucs, il calcule. Et là, en fait, il apprend les tables de multiplication, mais à l'avance, tu sais, genre, il les fait dans sa tête. Une fois qu'il les a fait, ben voilà, la table des 56, il maîtrise, quoi.
Mais tu sais, s'il est dispo en début d'année l'année prochaine, s'il veut venir remplir notre déclaration d'impôt, moi, je veux bien, je vous héberge quelques jours.
J'aimerais bien que s'il y ait une finalité à tout ça. Tout ça pour dire que je suis très fier de mon fils, il a appris à nager.
Très bien. En faisant des maths en même temps, en plus. Et ça, c'est balèze.
En faisant des maths en même temps, je lui dis compte. Compte les secondes avant de respirer.
À chaque bouchée d'air, 49 multiplié par 12.
On peut pas faire un multiple de 6, plutôt. Non, mais en fait, il avait peur de la flotte. Enfin, pas peur de la flotte, mais il avait peur de mettre la tête sous l'eau et tout. Il n'avait jamais mis sa tête sous l'eau, presque.
Ouais, bah, c'est intimidant au début, ouais.
Et là, il a un déclic avec l'école maternelle, les dernières semaines de l'école maternelle. Il a eu un déclic, ils ont fait une semaine découverte. Et là, c'est passé tout seul, et à un moment, il voulait jeter, genre, le bassin aux 3 mètres de profondeur. J'ai dit, il y a des moyens pour y arriver un peu plus doucement. Et au bout d'un moment, on était dans le bassin des kids, là. Et je me dis, mais en fait, il sait nager, quoi, en fait. Mmh. Et là, je dis, viens, on va là où c'est profond. Et genre, je le lâche, et en fait, il nage devant moi. Il nage un crawl de quelqu'un qui a jamais appris le crawl, mais il y a un crawl qui lui permet de... Par contre, évidemment, il n'a pas les bases de genre la brasse, il sait pas ce que c'est, et aussi, il n'a pas la stagnation. C'est-à-dire, il faut qu'il avance, sinon il bloup, 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 il va sous l'eau.
D'accord.
Ouais, et il y a encore des choses à parfaire, mais déjà...
Ah oui, bah, le papillon, notamment.
Et déjà, à 6 ça va. Déjà, à 6 ans, c'est pas mal.
Oui, c'est déjà bien.
Hein. Benji, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers temps?
Alors écoute, qu'est-ce qui m'est arrivé ces derniers temps? Pas grand-chose. Écoute, j'ai repris le travail puisque c'est notre premier enregistrement à distance depuis très longtemps, mine de rien, vu qu'on a sorti deux épisodes où on était tous les deux dans la même pièce avec deux invités quand même de qualité.
Hein? Clarifions quand même qu'il s'agit évidemment de l'épisode 199 avec Flaubert
voilà.
Et 197
avec Nicolas Sarkozy.
Avec c'est la personne qui nous monte en ce moment, donc sois gentil avec elle.
La personne qui nous mixe, il ne nous
qui
monte
nous
mixe, pas.
Qui nous monte pas, c'est vrai.
Après, si tu veux te faire monter par Baptiste, bon, c'est votre problème, vous gérez ça entre vous. Mais
du coup, oui, voilà. Donc ça, c'est l'épisode 198, et c'est vrai que ça fait longtemps. Mm-hmm. Et tu sais quoi, il s'est passé plein de choses entre-temps, genre une Coupe du Monde chez toi.
C'est vrai qu'il y a eu une Coupe du Monde entre les deux.
Et tu sais où j'étais pendant la Coupe du Monde ?
Bah non.
J'étais en Angleterre, j'ai passé le week-end en Angleterre.
Et moi, j'étais aux États-Unis pendant la Coupe du Monde.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est quand j'étais à New York cette année, sur l'avion retour, il y avait Ted Lasso. J'avais jamais regardé Ted Lasso.
Ah, et donc ?
Attends, j'espère que j'ai pas raconté cette histoire, parce que je crois que je te l'ai raconté en vrai, mais du coup, il faut que je la raconte sur un podcast.
Non, tu m'as pas raconté, moi, je t'écoute. Hein.
Eh ben, écoute, j'ai regardé ces trois épisodes de Ted Lasso, et je me disais, c'est trop bizarre. Parce que, en fait, ces ruelles et tout ça, ça ressemble vraiment à quelque chose que je connais. C'est vraiment très, 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 très familier, quoi.
Ouais.
Je me suis dit, non, mais c'est l'Angleterre, tous les ruelles se ressemblent, ils ont pris des trucs pittoresques et tout. Et en fait, à un moment, en fait, il y avait trop de bruit et je captais pas où se trouvait la ville et tout, machin. Et en fait, il y avait trop de bruit dans l'avion. J'y allais aux sous-titres parce que parfois, j'entends pas les trucs.
Ouais.
Et surtout, si j'étais crevé, hein, tu sais, t'imagines bien que j'étais crevé. Et au bout d'un moment, je comprends. Ah, mais c'est Richmond! C'est Richmond! Et pourquoi je connais plus Richmond que Londres? Puisqu'en fait, j'ai des amis qui habitaient à Richmond il y a 15 ans. Je pense que c'est à 15 ans, ils étaient colocs. Et ils travaillaient dans des entreprises de jeux vidéo. Et en fait, Richmond est pas mal pour aller dans ces entreprises de jeux vidéo.
D'accord.
Et du coup, ça faisait très longtemps, je suis pas allé à Richmond depuis 2017 ou 2018, quoi, avant Covid.
Ouais.
Et donc, du coup, là, je me suis dit, je vais faire un week-end à Richmond. Mais en fait, Richmond, c'est plus la même chose. Maintenant, il y a les gens qui se prennent en selfie dans la rue de Ted Lasso.
Bah ouais, évidemment, ouais.
Et du coup, j'ai maté un match de foot. Alors, c'est pas que j'affectionne le match de foot ni les bars, mais par contre, je l'ai maté dans le bar de Ted Lasso. Donc, le fameux King's Place, là, j'ai regardé un bout de match de l'équipe de France. Savais-tu que l'équipe de France...
Ouais, qui n'est pas du tout pareil à l'intérieur, en fait. J'ai vu qu'ils ont filmé l'extérieur, mais l'intérieur, c'est un autre bar.
C'est un autre... Enfin, ben oui, c'est un studio. Ben oui, évidemment.
Ah non, c'est un vrai bar, mais c'est un autre bar.
C'est un vrai bar, mais ailleurs. Bon, écoute.
Ouais, c'est un vrai bar, mais
ailleurs. Mais du coup, je reconnais un peu... mais du coup, c'était très, très familier. Pour moi, c'était vraiment un comeback génial à Richmond, en sachant que je l'ai vu par la télé. C'est comme si tu revoyais... j'aime pas faire la métaphore de l'ex, parce que c'est vraiment très Greg de Soumis ma scène, mais c'est comme si tu revoyais une ex, mais que tu l'as vue à la télé et qu'elle est devenue star de la télé, et tu fais ah ouais, c'est pas la même personne, en fait. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est Richmond est devenu trop grand pour moi, enfin trop huge. Enfin, il y a une boutique de souvenirs dans la rue de Ted Lasso, quoi.
D'accord. Mais du coup, alors on est un peu dans l'actu, parce que la saison 4 de Ted Lasso vient de commencer.
Je ne suis pas à jour, j'ai même pas vu la 3.
Et alors moi, je suis à jour, et je suis d'autant plus à jour qu'en fait, c'est la série Feel Good de ma femme qui en fait la regarde en boucle.
Ah ouais ?
Je sais pas combien de fois elle a regardé Ted Lasso, mais en gros, elle me dit non, mais je me mets un épisode et puis ça me fait du bien et voilà.
Écoute, moi, je trouve qu'il y en a. Moi, j'ai vu presque toute la fin de la saison 2. Mmh. Il y a un épisode que j'adore en particulier. Mmh. C'est celui où Brett Goldstein qui s'appelle dans la série.
C'est Roy Kent dans la série.
Roy Kent, bien sûr. Qui est à peu près basé sur un vrai joueur, enfin, qui a vraiment existé.
Oui, c'est un mélange de un ou deux joueurs, mais surtout ouais. En particulier. Ouais.
Et il faisait le commentaire à la télé avec son bagou habituel. Et en fait, au bout d'un moment, il dit « fuck this ».
Et il se casse.
Il se lève,
ouais.
Il se casse. Et en fait, c'est une parodie de... C'est un pastiche, plutôt, des rom-coms de la personne qui essaie de rejoindre la personne au dernier moment à l'aéroport.
Ouais, avec la musique des Rolling Stones en plus. Ouais, je vois très bien quel épisode tu parles.
Il est dans taxi et il donne de l'argent. Allez-y, allez plus vite que vous pouvez. Ensuite, ouais. Il prend la petite charriette, nanana. Il loue le vélo et tout ça, machin. Il arrive jusqu'au stade et tout. Et honnêtement, je trouve ce moment tellement émouvant. Je sais pas pourquoi. Alors que toi et moi, on n'est pas des oufs de foot, tu vois. Mais il y a un truc très très émouvant dans cette scène. Pour moi, hein,
oui.
ça me bouge comme une rom-com qui fonctionne. Quoi.
Il arrive au stade et le public chante pour lui. Enfin, c'est un passage qui est super émouvant. Ouais.
Ah ouais, c'était super. Voilà, donc c'est Marocco. Pour une fois que je recommande un truc avant, plus tard que toi.
ouais. Bah écoute, non mais Ted Lasso, moi j'ai vraiment trouvé ça cool. Et puis t'as vu Shrinking sinon?
Bah bien sûr que ils ont repris.
Shrinking. Alors il y a eu une saison que j'ai pas encore vue, la saison 3.
Ouais. Saison 3, non, ils sont ratés. Ils vont faire une saison 4, mais ils vont pas.
Voilà, mais la saison 3, je l'ai pas encore vue, moi, mais elle est sortie il y a pas si longtemps, en fait. Et parce que c'est fait par les mêmes gens, Shrinking. Donc,
Oui, non, mais évidemment. Et il y a le même habillage musical, intelligent.
Voilà.
Il y a des comédiens. Il y a Brett Goldstein aussi.
Il y a Brett Goldstein dans un rôle très différent et assez touchant.
Ah ouais, mais il joue pas du tout le mec comique, en plus.
Ah, pas du tout. Donc, j'ai pas vu la saison 3 de Shrinking, mais tu vois, il faut que je la regarde.
Écoute, à tel point, j'ai vu la rom-com avec Brett Goldstein et J-Lo.
Jennifer Lopez. On l'a vu ensemble, Daniel.
Ah, mais oui, c'est vrai. C'était pas ouf, hein.
On l'a vu ensemble et on en a parlé dans l'épisode avec Flaubert. Ah,
c'est vrai, on en a parlé. Oh là là. Voilà, tu vois, tout là, ouais. J'ai tout qui revient. Mais en même temps, l'épisode avec Flaubert aura lieu dans deux épisodes.
si vous les écoutez dans l'ordre, effectivement, l'épisode avec Flaubert. Mais non, c'est le prochain, puisque là, on enregistre 180.
Mais tu sais quoi, on le reposte la semaine prochaine. Genre, c'est du nouveau contenu. S'il vous plaît, soutenez-nous, RPU, patreon.com/RPU.
L'escroquerie.
Non, mais soutenez-nous surtout parce qu'on va lancer un nouveau podcast de ciné.
Non, mais tu sais, le truc où on est bête, c'est que l'épisode 199, on aura dû le sortir en exclu Patreon et le sortir dans un mois pour les non-abonnés. Mais tu vois, on n'a pas l'once du début d'une queue de...
Ouais, mais en même temps, c'est pas grave.
De mentalité d'influenceur LinkedIn.
Mais oui, non, mais... Je sais pas si on l'a fait la blague avec lui, mais je lui ai dit, t'inquiète pas, le post Mastodon est prêt.
si, on a fait la blague, genre, t'inquiète pas, le marketing, on fera comme d'habitude, à savoir rien.
Tu as vu The Invite en salle?
J'ai vu The Invite en salle, donc le dernier film réalisé par Olivia Wilde.
Il n'est pas sorti en France. Et tu sais quoi? Tout le monde nous attend sur Odyssey, tout le monde nous attend sur Spider-Man.
Eh ben, parlons de The Invite. Donc The Invite, qui est un remake d'un film, je crois, espagnol, qui lui-même est basé sur une pièce de théâtre, qui a déjà eu droit à son remake français, qui s'appelle, si je n'abuse, Et plus si affinité.
Je crois que c'est ça, mais c'est un nom tellement nul, écoute.
Avec Bernard Campan, entre autres.
Avec Bernard Campan et...
Que je n'ai pas vu, moi j'ai juste vu The Invite. Donc tu veux parler de la version française vite fait? On a tous les deux pas vu la version espagnole.
Alors, je l'ai vu à l'Alpe d'Huez.
Ah, tu as vu la version espagnole? Non, tu as vu la version française.
Non, j'ai vu la version française.
Ok.
J'ai vu à l'Alpe d'Huez et il y avait Isabelle Carré.
Ouais.
Qui est la femme de Bernard Campan.
D'accord, qui sont le couple de deux personnages principaux.
Et en gros, c'est Julia Fort et Pablo Poli qui jouent le jeune couple, en fait.
Ouais.
Parce que ça, c'est la différence vraiment fondamentale dans la version française, c'est que l'autre couple est présenté comme jeune et déluré, alors que l'autre est un peu le couple vieillissant.
Voilà. Alors que dans la version américaine, disons-le tout net, hein, le couple vieillissant, c'est Seth Rogen et Olivia Wilde. Et le jeune couple, c'est Penelope Cruz et Edward Norton. Donc c'est un petit peu différent.
Les cartes sont rebattues, mais l'intrigue reste relativement la même.
Ouais.
Est-ce qu'on révèle Et plus si affinité, je crois que c'est dit dans les trailers. Hein.
C'est globalement, c'est pas dit ouvertement dans les trailers, mais tu comprends très très vite que globalement... le couple de voisins un petit peu plus, libérés sexuellement leur propose de faire un échange, quoi.
De swipe, quoi. Enfin,
De swing, voilà, ouais.
De swing, c'est ça, on dit en swing, c'est ça.
Ouais, des swingers, ouais.
Des swingers. Et du coup, bah, comme on dit à Los Angeles, où c'est une monnaie courante, hein, n'est-ce pas?
Bien sûr, ouais.
Je sais pas, c'est pas plus courant encore pour pareil.
Ah oui, non, mais...
Et du coup,
les vendredis soirs.
Voilà. Et du coup, on va passer peut-être directement au film français.
Ouais.
Il y a une chose fondamentale dans The Invite, la version US, c'est qu'elle est coécrite. Est-ce que je sais pas si tu as vu par qui elle est coécrite?
Alors attends, si, je l'ai.
C'est Rashida Jones.
C'est Rashida Jones, mais c'est ça, qui est coproduit et qui coécrit.
C'est Rashida Jones et Will Cormack.
Mm.
Et c'est réalisé par Olivia Wilde.
Ouais.
Et je pense qu'il y a énormément, il faut lire énormément dans son couple avec Seth Rogen. Il faut lire énormément de ce qui est arrivé à Olivia Wilde, de la médiatisation de sa séparation à elle.
Oui, de sa séparation avec Jason Sudeikis, donc. Donc Ted Lasso, tu vois, on revient sur nos pieds.
Parce que ce film-là est, je pense, à la version US, c'est éminemment plus cul, mais cul, attention, on s'entend.
Oui, on voit rien, il y a pas de.
On voit rien, il y a pas de cul, il y a pas l'ombre d'un truc. Mais elle est plus charnue, j'ai envie de dire. Elle est plus un peu plus offensive dans le sens à l'attaque. Hein.
Ouais, mais ça reste un
peu. Que la version française, qui reste un peu théâtre de boulevard, et elle est surtout basée sur le fait que le personnage de Bernard Campan, donc Bernard Campan refuse tout. Il refuse tout d'une manière presque caricaturale, genre non, et il y a une scène où il dit ah bah si c'est comme ça bah je me mets à poil et voilà et on voit Bernard Campan. Hein. Je sais pas si on voit un full frontal de Bernard Campan. En même temps, on a vu un full frontal de presque tous les inconnus maintenant.
Oui. Est-ce qu'on voulait vraiment ça? Je ne sais pas.
Il y a des full frontales de Didier Bourdon. J'aime. Bon, je pense que tu sais quoi? Si je fais un podcast, on va parler des full frontales de Didier Bourdon. On va les classer par ordre de préférence.
Super frontal battle.
Super Didier Bourdon frontal battle. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un film qui parle plus de la difficulté du couple que le film français qui reste quand même très vaudeville. Et ça le rend étonnamment plus profond. Mais moi, j'ai la manière de comparer, hein, puisque j'ai vu les deux.
Ouais, ouais.
J'ai pas vu le film espagnol, mais j'ai envie de le voir. Mais ça reste un film étonnamment profond et je trouve plus dur en fait, plus. Je pense que ce film n'aurait pas été pareil si Olivia Wilde n'avait pas parler en public de sa séparation.
Eh ben, je suis bien d'accord et je voudrais même ajouter que moi j'y suis allé avec mon épouse et que c'est un film qui, si jamais il y a, alors je suis pas en train de parler de moi, hein, mais si jamais dans votre couple ça va pas fort, peut-être n'allez pas voir ce film immédiatement parce que ça risque de provoquer des questions un petit peu compliquées en fait. Nous quand on en est sorti, on en a pas mal discuté. Et on s'est dit que ouais, heureusement nous ça va, mais que on pense que ça peut provoquer des conversations un petit peu pas super confortables.
Je pense que c'est le genre de film faux amis. C'est tu vas le voir
en pensant rigoler,
et
tu ressors, tu rigoles pas vraiment.
C'est comme les gens qui allaient pendant, j'adore cette anecdote, à la Saint-Valentin, ils sont allés voir Rebellious Roads. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, Les Noces Rebelles.
Ah, le film avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.
Mais oui, ils sont tous allés le voir en disant ah, oh, c'est Leonardo DiCaprio.
Après Titanic,
ils se retrouvent et tout. Il est sorti le jour de la Saint-Valentin, je peux dire. Et c'est pas du tout, c'est zéro fun.
Ah ouais.
C'est zéro fun. Et tu les voyais sortir.
Je l'avais vu tout seul, Revolutionary Road, et c'est vrai que ouf, c'est pas fun du tout.
Tu vois les gens sortir mais livides. Donc, est-ce que tu recommanderais ce film ?
Alors ouais, moi je pense que c'est quand même vachement intéressant et je le recommande notamment aux gens qui sont en couple, mais comme je le disais, si en ce moment dans votre couple, ça va pas forcément fort, ça va peut-être provoquer des conversations un petit peu compliquées, mais peut-être qu'ils sont nécessaires, je sais pas, hein. Ça sera à vous de voir, donc je le recommande, mais avec une petite astérisque qui dit « faites quand même gaffe ».
Ouais.
Et puis ça veut pas dire qu'on rigole pas, hein. On rigole à hein, plusieurs moments, mais à la fin, t'as un petit malaise, quoi. À la fin, c'est ouh.
Et il y a aussi un truc, bon, moi j'ai pas d'affect particulier avec Ed Norton en particulier, mais. Alors, ils sont tous beaux, hein, comme je t'ai dit, les acteurs français et tout, mais tu mets Penélope Cruz, c'est quand même genre. Penélope. Et genre, la stratégie d'Olivier Wilde dans ce film-là, c'est de se faire passer pour la moche à côté de Penélope Cruz, alors que Olivia Wilde est absolument magnifique, hein, et ils sont tous magnifiques, hein, je trouve.
Voilà, ils sont tous plutôt beaux et même Olivia Wilde en fait qui est en, comment dire, je vais utiliser un anglicisme, mais elle est un peu washed up en fait. C'est tu sens que elle est épuisée, qu'elle en a un peu marre, qu'elle fait pas d'efforts pour être belle. Alors que tu vois qu'elle est magnifique, quoi. Elle a du mal à le cacher quand même.
Quand c'est la tournée promo de ce film, elle est tirée à quatre épingles, elle est ouf. Et là, tu sens que oui, tu sens qu'il faut montrer que le couple est en difficulté. Mais c'est dur, hein, quand même, genre.
Ah, c'est compliqué, ouais.
C'est compliqué.
Après, ils le vendent bien. Hein. J'arrive à croire que leurs couples sont en train de battre de l'aile dans la manière où, parce que les acteurs sont tous bons.
Et on oublie un truc, on oublie que Seth Rogen sait jouer la comédie. Hein.
Tout à fait.
Qui sait être un bon acteur dramatique. Il est pas juste. You know, I'm Canadian, right?
Et c'est un film qui a pas dû coûter très cher parce que globalement, à part la séquence d'intro, c'est un huis clos, ce qui est normal vu que c'est tiré d'une pièce de théâtre.
Ouais.
Non, c'est surtout. Et puis les acteurs, je pense pas qu'ils aient pris super cher pour faire le film. Donc c'est un film qui globalement n'a pas coûté cher, mais qui je trouve t'en donne pour ton argent en fait.
Mais ce n'est pas une rom-com. Attention.
Ouais,
si c'est vous voulez une rom-com, allez plutôt voir. Brett Gustin et Jane.
Voilà, c'est pas feel good en fait. Voilà, n'y allez pas en pensant passer un bon moment feel good. Et globalement, dans la salle, on était que des couples.
Ouais.
Et tu sentais qu'il y avait un petit malaise à la sortie. C'était assez drôle.
Plus feel good, est-ce qu'on parle de Spider-Man peut-être ?
On peut parler de Spider-Man, écoute.
Je pense que la plupart des gens de notre public l'ont vu.
Est-ce qu'on spoil le fameux twist ? L'identité du fameux personnage.
Alors d'abord, je pense que oui, à partir de maintenant, nous allons spoiler. Voilà, point.
Ok, alors on va spoiler Spider-Man.
La manière dont c'est fait est très, 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 très random. Tu sens qu'ils avaient besoin d'un nom un peu connu, et ils ont pioché dans la banque de noms, et ils ont fait en sorte, toi, tu vas avoir les cheveux de cette couleur, et c'est tout. D'abord, Spider-Man est devenu une espèce de mec un peu louche qui scanne tout le monde avec ses caméras de surveillance et tout. Je trouve que jamais on remet ça en question alors que genre c'est littéralement le problème de Dark Knight quoi.
Ouais.
C'est genre tu veux écouter tout le monde. Non, il faut pas regarder tout le monde justement, c'est ça qui fait la différence entre un mec bien et un salopard quoi.
Ah bah c'est un immense problème pour moi hein. C'est que à aucun moment c'est remis en question et que globalement
aucun.
On te dit non c'est bien qu'il le
ouais.
fasse.
Et je veux bien qu'il soit traumatisé, qu'il ait ses parts de douleur et tout ça, mais genre c'est injustifié. Alors que il y a un truc beaucoup plus simple, c'est genre je suis connecté à la police. Au moins tu écoutes la police, c'est déjà bien.
Ouais voilà. Et si la police utilise la surveillance, parce que alors on le sait hein, la police de nos jours l'utilise massivement. Si vous n'avez pas regardé le Last Week Tonight qui parle justement de surveillance tout ça, bah
je l'ai vu.
Il est on a le problème à Burbank, on a des caméras Flock et on est en train de faire le forcing auprès du conseil municipal pour qu'elle dégage hein. Donc c'est vraiment un problème très très actuel et la façon dont c'est géré dans Spider-Man est complètement conne et je suis vraiment pas content là-dessus.
Mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir entendu des mais moi j'ai un vrai souci avec ce truc quoi. C'est pas déjà j'ai Spider-Man nanana et enfin adulte et tout, je fais ouais mais à quel prix quoi.
Ouais.
Parce que ouais. Et tu sais en plus le pire c'est pas Tom Holland c'est aucun des acteurs ne joue mal hein, c'est vraiment l'histoire est écrite vraiment de manière un peu débile.
Mais en fait, déjà, de base, ils se sont tirés une balle dans le pied à la fin de No Way Home avec ce fameux sortilège sur la mémoire. Parce qu'il y a tellement de trucs qui fonctionnent pas quand tu te poses 5 minutes pour y réfléchir.
Ouais.
Tu te dis, c'est pas possible, quoi.
Mais admettons qu'il y a un sortilège de mémoire et tout ça. Et genre, pourquoi tu fais Spider-Man s'associer avec une boîte qui fait de la surveillance et aussi qui incarcère des gens et tout, genre, pourquoi Spider-Man irait, genre, il n'y a pas un problème dans ce truc. Et ensuite, en fait, tu découvres qu'il y a une télépathe, et cette télépathe, et ben, elle manipule les gens, et alors, à un moment, elle a un plan. Mais pourquoi elle va essayer de capturer le télépathiquement le scorpion?
Non, mais, déjà.
Genre, pourquoi ça n'a pas de sens?
C'est une télépathe au pouvoir avec des règles aléatoires parce qu'il y a eu, il y a au moins un, voire deux moments dans le film où globalement on respecte plus les règles qui ont été établies. Et moi j'étais là, genre, mais pourquoi? Et puis ensuite, ce personnage, mais c'est une tueuse de masse en fait.
Et ces personnes, on n'a pas encore prononcé le nom, mais ces personnes, ils lui ont donné un nom bien connu de l'univers Marvel, ils l'ont appelé Jean Grey.
Mais voilà, c'est Jean Grey. C'est l'introduction de Jean Grey des X-Men dans le MCU. Et c'est une putain de tueuse de masse terroriste. Et
ils ont saccagé Jean Grey. Alors je
comprends pas.
Je sais pas si on la voit tuer physiquement.
Non, en fait, elle tue globalement. A priori, elle ne tue personne, en tout cas on screen. Mais déjà, c'est de la chance le fait qu'elle ne tue personne, parce que si Spider-Man n'était pas là pour sauver les gens, il serait mort.
Ouais.
Et c'est pas impossible que off screen, avec tous les dégâts qu'elle fait, il y ait des gens qui meurent en fait.
Mais surtout, elle fait le mal.
Ah oui, non, mais c'est une vraie méchante quoi.
C'est une vraie méchante. Elle fait des trucs mauvais et il y a un truc encore plus dégueulasse. Mais moi, c'est genre, j'étais vraiment choqué par cette idée. C'est que c'est encore une fois une fille qui a des pouvoirs trop grands pour elle. Et elle n'arrive pas à les gérer, c'est exactement...
C'est la Scarlet Witch.
Scarlet Witch. Voilà, exactement. C'est Scarlet Witch à nouveau. on l'a déjà. Pourquoi ils ne peuvent pas s'empêcher d'écrire ça? Pourquoi ils ne peuvent pas faire une fille qui a des pouvoirs normaux? Pourquoi il y a plein de manières d'écrire ça bien, en fait, ce truc.
Et moi, tu sais que le pire, c'est qu'au début du film, moi, j'étais pas au courant. Alors, le fait que ce soit Jean Grey, c'était déjà sur Internet depuis des mois, il y avait déjà des grosses rumeurs et tout. Je n'étais pas du tout au courant. Et moi, au début, je regarde le film.
J'étais pas au courant non plus.
Et je me dis, ah, si ça se trouve, c'est Malice. Si ça se trouve, c'est cette entité psionique qui peut prendre possession des gens et tout, parce que c'est ça en plus qui t'est montré. Et je me dis, oh ouais, bon, bah c'est un peu bizarre pour un méchant de Spider-Man, mais ok, admettons. Et en fait, non, là, on t'apprend que c'est Jean Grey, et là, moi, je me dis, mais pourquoi? Et en fait, je vois beaucoup de gens dire que c'est le meilleur des quatre Spider-Man avec Tom Holland, et je suis pas loin d'être d'accord, même si, malgré tous ces problèmes, j'aime bien le premier quand même, même si le premier a d'énormes soucis, parce que j'aime bien le fait que ça soit street level, j'aime bien le fait que globalement New York soit au centre de l'histoire, j'aime bien les acteurs, j'aime bien Tom Holland et Zendaya, j'aime bien, globalement la réal se tient, il y a des chouettes plans de voltige, même si le film n'est pas forcément toujours super beau, j'aime bien le fait qu'il y ait le Punisher, même si c'est un clown du début à la fin du film, mais ce que j'aime pas, c'est qu'est-ce que c'est que cette blague de The Hand qui est réduite à une poignée de ninjas, alors que c'était une armée super dangereuse dans Daredevil, là c'est quasiment des clowns, Scorpion qui finalement est un leurre parce que la vraie méchante c'est Jean Grey. Tout ça j'aime pas, et j'aime pas la manière dont il gère le memory spell, j'aime pas le rythme qui est vraiment bizarre par moments, de trucs qui succèdent où tu dis mais là pourquoi il y a ça après ça, enfin le montage est vraiment étrange, la surveillance de masse j'aime pas, enfin il y a vraiment plein de trucs que j'aime pas au final quoi.
Et tu sais quoi, si son pouvoir c'est de prendre contrôle des gens et en plus de passer d'un point d'un personne à un autre, c'est nul. Ça a jamais été ça son pouvoir dans aucun comics.
Jamais, ça n'a aucune raison d'être ça.
Jamais, genre le truc de Ricochet, c'est nul.
Et cette histoire de distance limite qui fait que du coup bah elle pète les règles à un moment, à au moins un moment elle pète les règles. Bon bref.
elle devient plus forte. Bon, mais le truc c'est que son plan n'a aucun sens. Pourquoi elle ne prend pas possession, genre si c'est vraiment ça ce mouvoir, hop, tu pètes d'un point à l'autre, tu passes jusqu'à l'entrée de la prise de la société machin où tu voulais rentrer, clac clac, tu rentres par la porte et tu prends contrôle du directeur.
Ouais,
t'es fucking télépathe.
Tu prends Hulk, tu vas jusqu'à la porte et là tu prends le directeur.
Voilà.
Terminé.
Mais pourquoi tu te fais chier à faire des plans? Pourquoi à un moment t'as besoin de prendre une vieille dame qui pilote un tank à travers la ville et qui détruit tout?
Non mais.
Genre.
Aucun sens. Non mais vraiment.
Nul. Mais vraiment. Et je pense que voilà. Je pense que c'est peut-être le meilleur film Spider-Man par défaut.
Avec Tom Holland, hein, parce que les Sam Raimi sont quand même encore au-dessus.
Avec Tom Holland, mais parce que les 15 premières minutes, elles sont bien. Les 15 premières minutes. À part cette histoire de surveillance électronique, ça reste quand même Spider-Man street level, Spider-Man qui sauve des gens.
Spider-Man qui en chie.
Spider-Man qui en chie, mais il fait des blagues. Spider-Man qui, bon, il voit ses anciens compatriotes. Mais les 15-20 premières minutes, ça va. À partir du moment où arrive
Jean Grey,
Sadie Sinks, c'est catastrophique. C'est vraiment...
Ouais.
Et alors, si on peut... En plus, si tu fais une organisation maléfique, si on peut éviter de mettre Tramel Tinman partout, parce qu'il ne fait plus que ça, Tramel Tinman, le pauvre, il joue plus que des mecs derrière un bureau qui dit nous allons continuer de faire nos recherches. Pour vous le situer, Tramel Tinman, c'est le mec qui est dans la série Severance.
Ouais.
Donc le mec qui... Milchick, voilà, Milchick.
Mr. Milchick dans Severance. Et qui avait un rôle un petit peu différent dans Mission Impossible, qui est un des rares trucs que j'avais bien aimé dans Mission Impossible.
Mais il fait plus que ça. Il fait plus que du...
Mais là, il fait Mr. Milchick, mais chez Damage Control. Voilà.
Écoute, ça ne sera pas mon blockbuster de l'été.
Non, moi non plus.
Je donne mon point à... Évidemment, sans aucun problème à Odyssey.
Je serais bien en peine de te dire devant lequel je me suis le moins fait chier parce que j'ai pas aimé The Odyssey. Voilà.
Ah ouais, moi j'ai vraiment aimé.
Moi j'ai trouvé ça.
J'étais vraiment dedans.
Moi j'ai trouvé ça très bizarrement rythmé avec des séquences trop longues et d'autres vachement trop rapides et vachement trop éludées. J'ai trouvé ça mal filmé pour toutes les scènes d'action. C'était catastrophique. Il faut absolument que Christopher Nolan se trouve un réalisateur deuxième équipe qui sache filmer des scènes d'action.
J'ai trouvé ça mieux qu'avant, beaucoup mieux qu'avant.
Ah non, moi vraiment pas. Moi, le combat final avec tous les prétendants, j'ai trouvé ça vraiment abominable. Toute la scène d'attaque de 3, c'était globalement illisible. C'était vraiment... J'ai détesté.
Ah, moi, j'ai adoré 3.
Et truc que j'ai détesté par-dessus tout, vraiment, les percussions insupportable pendant toutes les scènes d'action qui déjà m'avaient saoulé lors de l'extrait que j'avais vu avant Avatar, où globalement j'avais vu un extrait de l'attaque de Troie avant Avatar et je m'étais dit putain j'espère que les percussions c'est juste pour l'extrait parce que si c'est comme ça pendant le film ça va être infect. Et c'est comme ça pendant quasiment tout le film. Moi, il m'est rien resté de la bande-son. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah mais attends, la soundtrack, elle est incroyable. Il y a des super instruments qu'ils ont recréés et tout. » Moi, tout ce qui me reste de la bande-son, c'est ces percussions qui m'ont vrillé les oreilles, qui ont fait vibrer des trucs dans la salle qui n'étaient pas censés vibrer, que j'ai trouvé insupportable. Vraiment, j'avais envie de me barrer, quoi. Je n'ai vraiment... Plus je pense à ce film, plus je le déteste.
C'est marrant parce que moi, j'ai aucun problème avec la bande-son. J'ai trouvé ça super.
Ah ouais, moi, vraiment, ça m'a explosé les oreilles.
J'ai trouvé ça super, mais après, tu sais, je suis pas... Moi, il y a par exemple, il y a une porte dans mon immeuble où la porte elle grince, mais genre elle grince. Et je pense que c'est une espèce de micro-son qui n'atteint que mon oreille. Et à chaque fois, je dis, mais vous entendez pas cette porte qui grince ?
Ça, c'est marrant, j'ai jamais remarqué.
Non, mais c'est pas une porte que tu connais.
Ah, ok.
Du coup, j'ai la porte des poubelles. Je t'ai pas demandé de fitter les poubelles.
Ah oui, non, je suis jamais à la locale poubelle, non.
Mais voilà. Et du coup, genre, ça grince. C'est vraiment, genre, vraiment insupportable. Et en fait, s'il y a que moi qui est affecté par ça, peut-être que dans ce film, les percussions, t'es affecté que par toi. Moi, j'ai adoré du début à la fin.
Ouais.
Je trouve que c'est une take vraiment, vraiment intéressante. Ulysse dépressif et tout.
Ah, mais Ulysse en vétéran avec des PTSD, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pour ça que
je trouvais ça super.
Je suis déçu du reste, en fait.
Alors, ma hot take, c'est que je pense que c'est un meilleur film sur l'Iliade que l'Odyssée.
Je suis assez d'accord.
Je trouve que l'Iliade montrée comme ça, c'est-à-dire pas comme le truc glorieux avec Achille, Brad Pitt et tout, machin, tout ça, genre. C'est l'Iliade montrée sous le fait que. Sous le truc que, eh ben, on a mis à sac une ville et c'est dégueulasse. Mmh. Et tout ça pour rien. Et de montrer que, ben, c'est 10 ans, alors que tu les sens pas, les 10 ans sur, dans Troy. Là, tu les sens, qu'ils en auront le cul. Honnêtement, je trouve que tout ce qui est la partie Iliade, je la trouve super.
Alors, je te cache pas que j'ai pas senti les 10 ans non plus, parce que moi, de toute façon, je trouve que Nolan, la temporalité, il sait pas gérer depuis Dunkerque, donc j'ai pas senti les 10 ans non plus.
Moi, je trouvais ça bien fait. Et tu sais quoi, c'est comme un film omnibus, parce que toutes les îles sont un peu différentes.
Ouais.
Genre, Circe, j'ai trouvé ça vraiment bien.
Ouais, c'est le meilleur passage du film, je trouve.
Circe, vraiment, genre, il y a un high point là-dessus. Tout le monde est d'accord pour dire Circe. Il y a vraiment un truc vraiment trouvaille.
La manière dont elle transforme les mecs, tu te dis, Nolan, il devrait faire des films d'horreur, en fait. Parce que franchement, il se démerde là-dessus.
Je trouve tous les comédiens sont pas en reste. Alors après, moi, deuxième hot take, je pense que pour moi, la good ending, c'est pas retourner à Ithaca et voir ton fils et tout. C'est quand même de rester avec Charlize Theron en filet à pêche, coincé. Et en plus, t'as la vie éternelle et en plus, t'as le poisson qui est grillé. Je sais pas pourquoi ils ont fait Calypso sur une plage et tout, alors que moi je voyais ça genre qu'elle vit dans une tour et que tu vois genre je voyais ça un truc un peu plus ouf quoi, tu vois genre un truc où les bateaux se sont échoués et tout. Là c'est genre non on est sur la plage et il y a un petit côté je sais pas, True of Life que j'aime bien. Je trouve ce que j'aime bien dans cette séquence, il y a vraiment beaucoup de choses individuellement que j'aime beaucoup. Je trouve que on a cassé beaucoup de sucre sur le dos de Tom Holland. Je pense que c'est parce que surtout Tom Holland, il sait pas qu'elle a joué en fonction des séquences. C'est-à-dire qu'il joue. J'ai l'impression qu'il joue Peter Parker à peu près à tous les âges, sauf à la dernière séquence où il s'est dit non mais là je suis grand. Mais je trouve pas que c'est un mauvais acteur.
Oui.
Je trouve que la Pénélope, elle est vraiment super. Et il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est que Robert Pattinson, quand il s'agit de jouer les connards...
Ah, il est très fort.
Il est Hal. Il est présent.
Mais c'est un super acteur, Pattinson, vraiment. Hein.
Vraiment.
Moi, je suis super content qu'il se soit extirpé de Twilight pour vivre sa vie et mener sa barque. Et il est excellent.
Moi, j'ai jamais vu Pattinson dans Twilight. Pour moi, c'est comme tous les mecs qui me disent « Ah, c'est comme il était bien dans Harry Potter ». J'ai jamais vu Harry Potter, jamais vu un seul des Harry Potter, c'était mon blind side complet.
Ouais, mais après, il a pas un gros rôle dans Harry Potter, il est surtout dans un film Harry Potter.
Ah, il est dans Harry Potter ?
Ah ouais, Robert Pattinson, il a un rôle dans le quatrième film Harry Potter.
J'ai dit ça complètement random, vraiment, c'est pour se dire...
Mais après...
C'est pour parler de mes deux blind side, Twilight et...
C'est un rôle important dans ce film-là, mais globalement, c'est pas un rôle super important dans toute l'histoire d'Harry Potter.
Comme on dit chez toi, whatever, c'est pas...
Ouais.
J'ai pas intéressé. Je pense que tant que mon fils ne s'intéressera pas à ça, je ne jetterai pas. Et tu sais qu'en plus, avec tout le passif de Harry Potter, c'est bon. C'est bon, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais ouais, non, non, Odyssée, je trouve qu'il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc poignant. Tu sais, c'est comme les gens qu'on interviewe, les historiens ou les traducteurs et tout, ils ont tous leur vision. Mais en fait, j'avais tellement ma vision et mon Ulysse dans ma tête, c'est tellement un good dad avec Télémaque et Nono.
C'est Ulysse 31 dans ta tête.
Et Nono,
ouais, voilà,
ouais.
Oui, c'est ça.
Non, mais oui, pour moi, l'épisode du retour d'Ithac, il se déroule comme dans Ulysse 31, parce que Ulysse 31, il y a un épisode où Ulysse rencontre Ulysse de l'époque de, enfin, l'époque de Odyssée. Tu sais, l'époque d'Odyssée. C'est comme cet idiot de Elon Musk qui dit, ouais, mais, tu sais, il parlait en plus en vue des trailers, il disait, ah là là, Homer retourne dans sa tombe. Homer, mec, n'a jamais existé. Homer, sans doute, n'a jamais existé, mon ami.
Non, mais t'inquiète pas, Elon, il va faire son Odyssée générée par IA et ça va tout mettre tout le monde d'accord.
Ça va être catastrophique.
Ah bah oui, ça va probablement être catastrophique si ça sort un jour.
Ça va être catastrophique, mais j'espère qu'il prendra Arnie Hammer pour le doublage. Que j'ai vu, hein, j'ai vu la fameuse merde d'Arnie Hammer.
Tu l'as vu, Citizen Vigilante?
Bah, oui, écoute, j'ai vu Citizen Vigilante. Pour la science, pas par mauvais goût macabre, mais pour savoir de quoi il s'agit.
Ouais, bah je l'ai pas vu, donc écoute.
C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment genre...
Oui, j'imagine.
C'est vraiment un film de propagande d'extrême droite, comme tu peux l'imaginer que c'est.
D'accord.
C'est absolument dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Hein,
vu tout le bien qu'en disait Elon Musk, je m'étais globalement attendu à ce que ce soit une immonde merde, oui.
Non, mais c'est vraiment... Et moi, je savais pas, hein, pour Elon Musk. Moi, c'est juste... Ok, d'accord, on va voir. Moi, c'était vraiment Arnie Hammer. Ah ouais, il mange pas que des gens, on va voir. Et en fait, c'était vraiment dégueulasse, mais vraiment immonde. Vraiment, c'est un film, tu te sens sale après, quoi.
Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira.
Est-ce qu'on termine sur cette note positive, notre podcast, ou on fait une reco?
Écoute, moi, j'aimerais bien... Je t'avais promis un petit sujet surprise.
Oh là là.
Et en fait, déjà...
Ah, je vais sortir le chien, je reviens. Non, je
déconne. Écoute, Daniel, ça fait 10 ans qu'on fait le podcast.
C'est vrai.
Et ça fait 10 ans qu'il y a un sujet qu'on n'a jamais abordé. Et en fait, c'était pas volontaire en plus, et c'est un petit peu par hasard. Qu'on n'a jamais parlé des jeux vidéo spécifiquement de cul. Et, alors les jeux vidéo de cul, ça existe depuis super longtemps. Il y en avait déjà au Japon à l'époque du PC 88. Enfin, c'est vraiment quelque chose avec l'informatique qui a été développée. Et puis, il y a les gros classiques de l'époque, donc du PC 88, les Dragon Knight, les Dokusai. Enfin, ces jeux-là que nous, on voyait dans les magazines quand de temps en temps... les petits fripons de journalistes, la presse spécialisée, nous mettaient un petit screenshot histoire de nous émoustiller en disant « Ah là, regardez ce qui sort au Japon !» Et au final, bon, c'est soit des RPG, soit des jeux de drague, où globalement, ça se résume à quelques images un peu coquines. Et bon, bah, ça attire un petit peu le nerdillon, mais c'est pas forcément des trucs super intéressants à jouer. Mais c'est un domaine qui a continué de se développer de son côté, sans trop forcément faire parler de lui, jusqu'à ce que ces jeux-là arrivent sur Steam, soit développés ensuite par des développeurs indépendants et arrivent sur d'autres plateformes, et jusqu'à ce que, en fait, les organismes de cartes de crédit, qui généralement sont assez frileux avec tout ce qui touche au sexe ou à la pornographie, menacent de faire interdire les jeux sur certaines plateformes de vente. Et il y a eu un mouvement qui s'était lancé notamment sur Good Old Games, qui disait « Défendez la liberté d'expression, achetez ce bundle ». Et globalement, tu avais un bundle avec une vingtaine de jeux de cul pour genre 5$. Et je m'étais dit, tiens, par curiosité, je vais le prendre et puis on verra bien. Je l'avais acheté, je l'avais mis dans un coin, je l'avais oublié. Et puis, j'avais complètement omis que je l'avais, de la même manière que tous mes jeux pas de cul sur Good Old Games. Hein. Globalement, Good Old Games, c'est quand même un site où j'achète plein de jeux parce que j'ai des bons souvenirs, parce que quand j'étais jeune, je les avais piratés en me disant, allez... Pour la forme, pour la nostalgie, histoire de me faire pardonner de l'avoir piraté à l'époque, je les prends parce que ça coûte pas cher. Et donc, je les avais globalement oubliés. Et puis, je ne sais plus exactement ce qui m'y a refait penser, et j'en ai lancé un. Alors, j'en ai lancé un qui s'appelle Lust Theory, qui est l'œuvre d'un studio qui s'appelle Incetone Games, qui est un studio qui est spécialisé dans le développement de ce genre de jeu. C'est donc un visual novel de cul. Alors, les visual novels, pour les gens qui ne connaissent pas, globalement, c'est des jeux d'aventure textuelle. Très grossièrement, on peut dire que les Phoenix Wright, par exemple, sont globalement des visual novels, même s'il y a des séquences un peu plus interactives que d'autres où tu es obligé de cliquer à droite à gauche, mais c'est beaucoup de dialogues, beaucoup d'images fixes. Et quand on parle de visual novel de cul, bah, c'est des images fixes avec parfois quelques animations, un petit peu olé olé, histoire de d'émoustiller le client. Et après avoir joué à ce jeu, donc j'en ai parlé. Alors j'ai écrit des reviews de mes pérégrinations sur les visual novels de cul sur Backlogged, hein, qui est l'équivalent de Letterboxd mais pour les jeux vidéo. Et en discutant avec un habitué du Discord pour préserver son anonymat, je l'appellerai Tony les bons tuyaux. Il m'a parlé d'un autre titre qui est disponible sur itch.io. Itch.io qui est cette plateforme de vente de jeux indés. Et alors là, c'était l'ouverture d'une boîte de Pandore. Il y a des dizaines de visual novels de cul gratuits sur itch.io. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez y aller, vous pouvez récupérer des jeux qui sont en plus en version complète, hein, mais qui sont développés par des indépendants, qui sont complètement gratuits. Et alors, pour dépasser un petit peu le simple, tu sais, le jeu de cul pour t'émoustiller, tu t'amuses avec pendant une heure et puis tu passes à autre chose, j'en ai découvert un qui est absolument incroyable. Alors, il faut savoir que beaucoup de ces jeux ont tendance à ajouter une méta, soit un personnage omniscient qui s'adresse directement au lecteur, soit en essayant d'ajouter des histoires qui vont un peu plus loin que le simple jeu où tu vas avoir un harem généralement de filles, hein, parce que le personnage principal est la plupart du temps un mec, même si par moment, ça arrive que le personnage principal soit une femme. Il y a un jeu en particulier où là, ça m'a scotché. Ça commence avec une histoire de harem, hein, voilà, hein, une histoire globalement classique dans l'univers, par exemple, des mangas ou des animés un peu de cul. Et ça part en métaphore sur l'oppression, sur la guerre des classes, sur la ségrégation, sur la domination des minorités. Et ça part giga loin avec parfois même des discussions sur qu'est-ce que c'est l'existence d'une intelligence artificielle. Enfin, tu vois, on est loin au-delà de l'écriture médiocre d'un Detroit Become Human. On est quasiment à un niveau Ghost in the Shell de l'écriture dans le même jeu qui, dans le même temps, te parle de trotskisme, mais un degré encore plus élevé que dans Disco Elysium. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Harem Hotel. Et honnêtement, hein, quand tu le lances, tu t'attends pas du tout à ça. Et au bout de 20 heures de jeu, on t'a mis dans la tête, mais tout un tas de réflexions sur le problème de domination de classe, d'oppression, des minorités, de ségrégation. C'est incroyable. Et ça m'a amené à me demander, mais est-ce que ce serait pas comme ça qu'on arriverait à convaincre la jeunesse qu'il faut être de gauche? Est-ce que le visual novel de cul est peut-être le moyen qu'on arrivera à trouver pour ramener les gens qui sont un peu trop tentés par justement l'extrême droite ou les rhétoriques masculinistes et toxiques qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou sur YouTube? Bah, je pense que c'est une question à poser. Alors, malheureusement, tous les visual novels ne sont pas comme ça, hein. T'as aussi des visual novels de cul avec des propos vraiment dégueulasses. Ceux-là, malheureusement, il faut les éviter. Mais Harem Hotel, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant à quel point le type s'est fait chier à écrire, à développer son propos, mais va des endroits où tu t'y attendais pas du tout, quoi. Alors qu'à côté de ça, ça reste un jeu où tu te crées un harem avec tout un tas de filles qui sont plus ou moins disposées à ton bon plaisir. Enfin, tu vois, le propos est pas top, mais à côté de ça, il y a toute une réflexion qui va giga loin. Et moi, personnellement, j'étais vraiment impressionné, en fait, qu'on arrive à ce niveau-là sur un jeu indé de cul, donc gratuit, on le rappelle, toujours en développement, le truc n'est pas fini. Donc, je ne sais pas jusqu'où il va aller, le gars, mais voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, je ne vais pas en faire une réco non plus, parce qu'il ne faut pas déconner, mais voilà, je trouvais ça intéressant, surtout que, bah oui, en 10 ans, on n'a jamais finalement parlé vraiment de cul, quoi. On n'a jamais parlé de pornographie, on n'a jamais parlé d'érotisme. Tu vois, le truc le plus cul dont on est parlé, c'était la série de Jean-Marc Morandini, quoi. Donc autant dire que c'était pas ouf.
C'est vrai, mais on n'a jamais parlé de politique non plus.
C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, du coup, tu vois, je te parle de trotskisme et de cul en même temps. Donc voilà, donc c'était une découverte vraiment. J'étais vraiment scotché. Donc je continue mes pérégrinations, je continue à essayer des visual novels et à les tester. Suivez-moi sur Backlogged si vous avez envie d'en savoir plus. Mais c'était vraiment une découverte. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait des jeux gratuits. De cul, parce que globalement, c'est quand même un truc qui est censé se vendre. Sur Steam, il y en a des tonnes, hein, des jeux qui sont vendus parfois à des prix un peu démentiels. Donc voilà, c'était vraiment une surprise.
Écoute, est-ce que c'est ta reco ou est-ce que tu veux faire une vraie reco?
Non, c'est pas ma reco, j'ai une vraie reco.
C'est de ce côté qu'il faut regarder.
Oye, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
Casse-toi, sale gominé. After Eight est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations.
Voilà, donc un autre jeu de cul. Non, je vais pas recommander un autre jeu de cul. Même s'il y en a vraiment d'excellente qualité, c'est impressionnant, mais je vous laisse aller faire votre marché.
Écoute, moi, je suis partiellement inculte, c'est aussi un blind side. J'ai choisi les jeux de cul et Harry Potter, tu vois. C'est
Mais j'y connaissais rien jusqu'au mois dernier, hein, vraiment. Hein.
J'ai juste fait Dokusei, qui est le truc le plus Kakusei. Voilà, c'est des jeux de cul japonais, juste pour ma culture à l'époque.
Tu sais que j'ai le CD de la version PC Engine de Dokusei à côté de moi. Mais j'ai jamais joué, c'est en japonais et moi je ne lis pas le japonais.
Et je me souviens que j'avais la version PC de Dokusei et là elle n'était pas censurée. Mm. Parce que moi j'ai joué surtout aux versions censurées sur console. Donc,
la version PC Engine est censurée, ouais.
C'était juste de l'érotisme au grand maximum, quoi.
Et puis c'est des jeux de drague, faut dire ce qu'il y a. Il y a une mécanique qui est un petit peu. C'est Tokimeki Memorial, mais avec des scènes un peu plus hot, quoi.
Il faut dire les bonnes réponses pour avoir les faveurs.
Alors que plusieurs des jeux que j'ai testés sur Itch, il y en a certains, tu appuies sur entrée et puis ça se déroule tout seul, quoi. Ouais. Donc il y en a qui sont à peine des jeux.
Ta reco, du coup, c'est un.
Donc ma vraie reco, c'est un vrai jeu. Et c'est un jeu que je crois tu apprécies aussi. Ça s'appelle Densha Attack. Et Densha Attack, qu'est-ce que c'est ? Densha Attack, c'est un mix entre un jeu de train, un jeu Tony Hawk et l'aspect visuel de Jet Set Radio, globalement. Je pense que c'est la meilleure manière pour décrire ça. Donc, c'est un jeu de train, puisqu'on dirige une loco qui est sur des rails. Mais c'est une loco qui peut faire des sauts, qui peut faire des tricks. C'est une loco qui va aller sur des bumpers, qui va aller sur des trucs qui va la faire accélérer, qui va faire du wall ride. C'est une loco donc que tu peux manipuler comme un skateboard. C'est un pur jeu de scoring avec une bande son incroyable et avec un design vraiment que je trouve super réussi. Alors que c'est pas un jeu japonais, hein, mais c'est un jeu qui est vraiment... C'est un jeu brochette fromage, on peut le dire, mais qui vraiment est super réussi.
C'est un jeu qui est fait à Barcelone. J'en ai parlé dans Sumimasen.
Ouais.
C'est un jeu assez jouissif, hein, parce que c'est super addictif. La mécanique est très intéressante. On peut à la fois sauter, on peut changer de rail, on peut faire des grinds, des tricks.
Ouais.
Et surtout, on peut faire des retournées acrobatiques en train.
Ça va à 2000 à l'heure, faut dire ce qu'il y a aussi, ça va très vite.
J'adore ça. Et les musiques, y a un mec de Persona... Il y a Mitsukoshi de Blue Blue Sky de Daytona USA.
De Sega, ouais.
Il y a le mec qui avait fait les musiques de Shinobi, le dernier Shinobi. Il y a des vieux roublards de la musique japonaise, quoi.
Ouais.
Et en même temps, ça pète le feu. Ça a des mille couleurs. Je trouve que ça a un feeling de jeu Dreamcast.
Ouais, ouais, complètement. Ouais.
C'est le genre de jeu qu'on avait avant, un peu sur PS2, mais surtout sur Dreamcast, où on avait vraiment beaucoup d'originalité. On se disait, allez, on va pas faire ça quand même. Si, allez, on le fait. Et du coup, c'est une vibe vraiment très intéressante. Pour tout faire, pour faire le 100%, c'est quasiment impossible. Enfin, il faut y passer vraiment beaucoup de temps parce qu'il faut refaire tout.
Ah oui, pour avoir les médailles d'or, c'est super dur.
J'ai jamais eu une médaille d'or pour l'instant, mais oui, il faut sonner sur... les mouettes, il faut que tu passes par les mouettes, il faut utiliser klaxon sur les mouettes, il faut récupérer tous les items cachés. C'est vraiment...
J'en ai quelques-unes, hein, mais tu peux pas les avoir au premier coup, c'est impossible. Quoi.
Comme il y a des centaines et des centaines de niveaux, c'est dingo. Quoi.
Non, c'est super cool. Si j'ai une petite critique, c'est que parfois la navigation sur la carte est pas évidente.
Ah ouais.
Mais sinon, à part ça, globalement, c'est un grand oui, quoi. C'est super agréable.
Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair qu'ils auraient pu, faire un peu mieux, moi, là-dessus. Mais écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup de jeux. Je peux juste dire que mon jeu de l'été, ça a été Splatoon, en fait.
Ouais.
Puisqu'ils ont sorti un nouveau Splatoon et c'est un Splatoon spécial qui est. Comment dire, il est multi, mais c'est un jeu solo, en fait. C'est un jeu solo, mais si tu veux, tu peux faire venir des potes pour buter le boss. C'est un truc de coopération. Et ça s'appelle Splatoon Riders, et c'est la mécanique de Splatoon, mais en mode solo.
En solo, ouais.
Et ça cartonne en Occident, ce qui n'était pas arrivé, parce que Splatoon, c'était vraiment un succès japonais.
Ouais.
Et là, maintenant, ça cartonne de feu de dieu.
Ah ouais, ça marchait pas plus que ça en Occident, Splatoon, tu vois, je savais pas.
Ça marche, mais honnêtement...
pas autant.
Voilà, ça marche à fond là-bas, ça marche à fond au Japon. Mais là, ce coup-ci, bah, là, ça marche bien, quoi.
D'accord.
Ils ont enfin trouvé leur groove. Et je pense que s'il y a aussi une mécanique de level... Tu récupères des items, tu peux customiser ton propre perso. C'est vraiment très 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 malin et je trouve que c'est un jeu super habile, quoi.
Bah écoute, tu te donnes presque envie, tu vois. Si j'avais pas un backlog démesurément long.
Non mais en plus il est pas très long et la boucle de jeu est hyper addictive. Donc voilà.
Parce que là je sais que je recommande Denshata qui est donc sorti il y a moins d'un mois, ce qui ne me ressemble pas. Hein. D'habitude les jeux vidéo récents j'y joue pas, mais ça coûte 20 balles. Quand un jeu indé coûte 20 balles, j'ai beaucoup moins de scrupules à l'acheter Day One pour y jouer. Je précise aussi que Denshata c'est sur Switch 2, PlayStation 5, Windows et Xbox Series, donc c'est vraiment dispo sur à peu près tout. C'est pas dispo sur Switch 1 à ma connaissance, ce qui est un peu bizarre, je pense que ça pourrait tourner, mais bon, voilà, comme ça.
Ouais, ils l'ont développé sur Switch 2, voilà. Bah écoute, c'est tout pour cet épisode.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Je suis obligé de regarder le nom de l'épisode, c'est l'épisode 198.
Ouais.
Donc le prochain, on va faire le nouvel épisode. Je pense que le prochain, on va... C'est quoi ? On a un invité. Je pense qu'on va inviter Flaubert pour le 199.
Ah, pour la ressortie du 199.
Non, ouais. Mais c'est un auditeur, on le salue. Donc.
C'est vrai. On salue Florent qui nous écoute probablement.
Ouais. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao !
Gros bisous.
Tu m'as fait peur quand t'es parti dans les jeux de cul, là.
Mais t'inquiète, je savais de quoi j'allais parler.
Ouais, bien sûr, non, bien sûr. Mais... Et pourquoi on n'a pas parlé de cul ? Ben, c'est parce que parler de pornographie, c'est aussi parler de sa propre sexualité. J'ai aucune envie de parler de ma propre sexualité.
Ah oui, non, mais... Non, moi, je voulais surtout parler de trotskisme dans les jeux de cul, en fait. C'était vraiment une surprise, quoi.
C'est quoi le jeu le plus trotskiste ?
Je dirais que c'est Disco Elysium. Enfin, ouais, le jeu mainstream le plus trotskiste, c'est Disco Elysium.
Il paraît que c'est Disco Elysium.
Ouais. Mais tu vois celui-là, ce jeu-là, là, donc Harem Hotel, qui c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a vraiment des angles où tu te constitues un harem de meufs, donc c'est vraiment c'est pas le truc le plus progressiste du monde, mais à côté de ça, il te parle d'une population opprimée parce que t'as des elfes dans cet univers-là qui sont globalement traités un peu comme des esclaves. T'as des intelligences artificielles avec des androïdes. Et donc, t'as une vraie réflexion, et comme je le disais, ça va un peu plus loin que la réflexion con-con de David Cage. Le type, il est vraiment passionné par son sujet, quoi. Et ça va giga loin. Donc, c'était vraiment une surprise, parce que c'est pas ce à quoi tu t'attends quand tu lances un jeu qui s'appelle Harem Hotel, quoi. Donc, vraiment, c'était une bonne surprise.
Je coupe.
Et moi aussi. Allez. Ah, on l'a fait en synchro.
Une production Air Peluche.